Face à l'info sur la première.
La première, face à l'info.
Face à l'info, et nous allons donc revenir sur ce fameux nuage de cendres qui nous vient d'Islande, Eddie Kakelbergs, avec toute une série de conséquences. Alors bien sûr, on l'a dit, dans le journal, les vols commencent à reprendre sur une partie de l'Europe, mais les conséquences effectivement sont très nombreuses.
Oui, outre les quelques 33 000 Belges qui sont toujours manifestement coincés à l'étranger et qu'il faudra rapatrier, il y a des questions d'ordre plus général ou plus générique qui s'opposent, une fois de plus, serait-on tenté de dire, sur le modèle de gestion de crise, ou plutôt sur l'absence de modèle de gestion de crise. Il faudra que l'on en tire quelques conclusions sans doute aussi à l'échelon européen, parce que si effectivement des mesures et des procédures étaient prévues pour la région Europe en cas d'éruption volcanique, elles n'avaient jamais été mises en œuvre avant ce problème islandais. Autre question, et puis on le sait, ou on le sait peut-être trop peu, l'espace aérien européen est en quelque sorte une fiction, d'abord parce que Eurocontrol est un organisme jusqu'ici intergouvernemental et que l'Europe en tant que telle n'a pas d'espace de contrôle réel sur les procédures qui restent du privilège des États, héritage bien sûr des dernières prérogatives de défense qui sont souvent les dernières prérogatives sur lesquelles les capitales s'asseyent. Alors pour commenter tout cela, des invités, des spécialistes avec nous, Patrick Lagadec, vous commencez à le connaître, et ce directeur de recherche à l'École Polytechnique de Paris, spécialiste en gestion de crise. Avec nous également en studio à mes côtés, Olivier Lallemand, spécialiste lui en aéronautique, et un autre spécialiste était également avec nous par téléphone, Francis Guinche. Il est responsable à Eurocontrol, précisément ce centre de gestion des flux du trafic européen au-dessus de l'Europe. Merci d'être face à l'info. Olivier Lallemand, bonsoir.
Bonsoir.
Une première question, bien sûr, vient à l'esprit et elle est évidemment celle qui a hanté au minimum le week-end, pour ne pas dire les 5 jours, lorsque l'on entendait des responsables, par exemple, de Lufthansa, d'autres Air France, nous dire « mais somme toute, nous nous sommes donc bloqués sur un modèle qui tourne informatiquement parlant, dans une agence à Londres, sans avoir pris la précaution d'aller alors vérifier par ballon-sonde ou autre test possible dans l'atmosphère si les choses correspondaient bien ainsi, en termes de densité par exemple, à la réalité. Est-ce que je me trompe si je dis qu'on a plutôt essayé de faire rentrer la crise dans le modèle que d'adapter le modèle à la crise ?
Alors effectivement, on est amené à se poser pas mal de questions sur les décisions qui ont été prises, parce que comme vous le dites, visiblement, les spécialistes se posent la question en fait de savoir sur base de quoi ces décisions ont été prises. Surtout qu'il s'agit évidemment d'une décision assez globale et qui a pour effet d'avoir bloqué l'entièreté des compagnies européennes et voire des compagnies du monde entier. Donc c'est sûr que la question, c'est de savoir effectivement sur quelle base et sur quels critères ces décisions ont été prises.
Francis Guinche, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes donc responsable d'Eurocontrol, ce centre de gestion des flux du trafic aérien. Je ne me trompais pas en sommaire en disant, Francis Guinche, que le statut d'Eurocontrol est un statut d'agence pour l'instant européenne intergouvernementale. On ne peut pas dire que vous dépendez par exemple de la Commission européenne. Vous n'avez pas un pouvoir de gestion étendu et d'autorité sur l'ensemble de l'espace aérien européen jusqu'aux atterrissages compris.
Moi, je vous ai trouvé assez pessimiste, effectivement, en ceci que, oui, c'est vrai, les États existent et les États décident. C'est une organisation intergouvernementale. Nous ne sommes pas directement administrativement reliés à la communauté européenne, mais nous travaillons en étroite coordination avec eux. Nous disposons d'un outil qui est relativement opérationnel en ce qui concerne précisément la gestion des flux de trafic aérien.
Oui, alors si ma question vous paraissait pessimiste, c'est parce que on sait aussi que depuis des années, on discute d'un ciel unique. C'est un concept. Le ciel unique, on a d'ailleurs cherché à l'appliquer déjà, notamment à des marchés du Maghreb. On sait que l'on aime bien, au nom de la libéralisation, ouvrir des ciels uniques, mais le ciel unique européen qui vous rendrait, je dirais, autorité sur l'ensemble, jusqu'y compris des procédures de décollage, atterrissage, etc., ça, ce n'est pas encore totalement la réalité.
Non, c'est vrai, au sens strict, ce n'est pas la vérité. Mais encore une fois, le ciel est grand et le problème qu'on a rencontré là n'était pas seul un problème d'unicité du ciel, c'était plutôt un problème de prédictabilité, de connaissance d'un phénomène qui n'est pas de nature aviation civile.
Alors lorsque, avec d'autres collègues, notamment de la presse écrite, nous relevons que les procédures existaient pour la région Europe en cas d'éruption volcanique, mais qu'elles n'avaient jamais été mises en œuvre, semble-t-il, avant ce problème islandais. Un, est-ce que nous avons raison de l'affirmer? Deux, pourquoi n'avait-on pas été tenté, si tel est le cas alors, de, je dirais, tester au minimum ce qui aurait pu devenir un chaos?
Oui, on a testé justement, mais c'est comme toujours avec les tests à blanc, on fait des scénarios, on dit on va fermer, on va ouvrir, on va faire ceci, on va faire cela. Mais le jour où la pratique se trouve en face de nous, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. On n'avait pas testé au point d'aller justement faire des fermetures d'espace. Mmh. Or là, on s'est trouvé avec une situation réelle et il a fallu effectivement... si ce n'est fermer les espaces, ne plus autoriser l'entrée des avions dans certains lieux et à certains moments.
Est-ce que cela veut dire que c'est notamment sur base de ces tests à blanc dont vous venez de nous décrire les circonstances que l'on fait tourner ce fameux modèle à Londres sur lequel on nous a déjà tant fait couler d'encre ?
Alors, le modèle de Londres n'a rien à voir avec nous. Hein. Là, le modèle de Londres, c'est celui qui essaie de déterminer où se trouve le nuage, où est la forte densité, à la fois son déplacement, etc. Nous, en fonction de ce modèle dont vous parlez, et selon qu'on nous indique qu'il est là et il est dense, et en fonction aussi d'une coordination qu'on fait avec les États et les différents centres de contrôle, on peut ou pas réagir vis-à-vis de... comment réduire le trafic, fermer le trafic, etc. Mmh. Ce qu'on avait testé, nous, c'était cette procédure de coordination entre un aéroport, un centre de contrôle et nous. Mais la question de votre modèle de déplacement du nuage, là, on est absolument... pas du tout compétent.
Est-ce que je vous comprends bien également, Francis Guin, si je vous dis d'une part que vous dépendez donc de la prédictibilité par des météorologistes et d'autres scientifiques du déplacement, des vents, des couloirs et du nuage d'une part, et que vous auriez pu être par ailleurs aidé très vite si l'on avait par exemple très vite, plus vite peut-être, accompli ces fameux tests, notamment ballon test, vol test?
La réponse est oui. On dépend effectivement d'un organisme et de compétences que nous n'avons pas. Et ça pourrait être le même phénomène quand il s'agit de plus aglaçante sur une piste de contrôle. Et est-ce qu'elle va durer? Est-ce qu'elle va se produire ou pas? Est-ce qu'on anticipe que l'aéroport sera fermé demain matin avec une prédictabilité de 50%? Alors là, c'est selon qu'on est optimiste ou pessimiste, mais... il n'y a aucun modèle qui sait résoudre véritablement ce problème d'un phénomène à un autre qui est de passer à une action éventuellement aux lourdes conséquences.
Vous restez avec nous pendant toute cette émission, je vous en remercie. Francis Guinche, avant de nous tourner vers Patrick Lagadec, Olivier Lallemand, je reviens encore un instant vers vous parce que avec tout ce que nous avons déjà ici en quelque sorte engrangé comme information, la question en reste, quand on voit et quand on mesure, et ça il ne fallait pas attendre un chaos de cette nature-ci pour mesurer le poids économique aussi de nombre de milliers de vols, d'heures de vol qui se retrouvent ainsi annulés. On parle, par exemple, en France, 200 millions d'euros de pertes. On voit qu'on dit un trou de 65 millions de dollars pour Emirates, la fameuse compagnie de Dubaï. On peut les allonger comme ça. Une perte énorme pour Air Berlin, deuxième compagnie aérienne allemande. On peut être étonné que face à un tel enjeu économique, on avait laissé autant de points de suspension.
Mais c'est effectivement le point noir, hein, le point de vue économique. Quand les compagnies aériennes vont prendre leur calculette dans les jours qui viennent, ben c'est sûr qu'on va faire face à des problèmes très importants. Et donc effectivement, on ne s'attendait pas non plus à ce qu'un volcan puisse mettre l'Europe au sol comme ça. Et donc c'est clair que les répercussions économiques sur certaines compagnies vont être assez importantes. On sait que certaines compagnies européennes sont déjà très fragiles. c'est certainement pas ce genre d'événement qui va arranger les choses.
Qu'est-ce qu'on aurait pu, selon vous, faire un certain nombre de choses, sinon de manière anticipative, du moins dès les premières heures de la crise, que l'on n'a pas fait et qu'il faut déjà tirer comme leçon pour le futur ?
Mais dans les premières heures, la décision qui a été prise était la plus sage, de bloquer et de faire le point dans les heures qui ont suivi. Ce qu'on se pose comme question, et notamment les grosses compagnies, style Lufthansa ou KLM, pourquoi n'avons-nous pas effectué des vols d'essai ou des vols tests plus tôt et essayer aussi de voir, par rapport aux instruments météorologiques, exactement les positions les plus dangereuses et s'il fallait bien maintenir une fermeture si drastique de l'espace aérien européen.
Alors Patrick Lagadec, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors on n'a pas effectivement, tous les calculs n'ont pas encore été faits, mais dans le Figaro par exemple de ce jour, on lit déjà sous la plume de l'IATA, l'Association internationale du trafic et du transport aérien, que l'impact de ce nuage peut être évalué à 150 millions d'euros par jour, 63 000, voire peut-être plus, vols annulés. C'est immense, hein, ceci simplement pour mesurer l'impact du secteur. Est-ce que ici, un peu comme pour la grippe H1N1, on a voulu à tout prix, comme je le disais, faire rentrer le risque dans le modèle plutôt que d'adapter le modèle au risque ?
Écoutez, moi, c'est évidemment trop tôt, on n'a pas le retour d'expérience, mais tous les éléments que j'entends au fil des heures depuis 8 jours... laisse penser que l'auto d'expérience va montrer effectivement qu'il y a des marges de progrès considérables. On est ici, je crois, exactement dans les crises du 21e siècle, c'est-à-dire qu'elles sont systémiques, elles ne sont pas gérables dans les codes habituels et les enjeux sont colossaux. C'est-à-dire que c'est l'économie de l'aérien qui est en cause et l'économie de l'Europe qui est en cause. Parce que dans un système qui est déjà chaotique, ce genre de coup peut aller dans toutes les directions. Alors, c'est quoi les chapitres à regarder ? Dans ce genre de crise, le plus important, c'est la qualification. De quoi s'agit-il ? Sur Katrina, c'était clair que ce n'était pas un cyclone, c'était une inondation majeure, c'était autre chose. Sur le H1N1, c'était clair que ce n'était pas la grippe de 1918, c'était autre chose. Donc sur la qualification, de quoi s'agissait-il ici ? J'ai bien peur que l'on soit parti sur cette image du commandant de bord qui survole le volcan en Indonésie et qui perd 4000 mètres et qui perd ses 4 moteurs et qu'on s'est dit, c'est ça, on arrête tout. Alors qu'on le fasse quelques heures, le temps de reprendre ses esprits, de regarder, oui, mais est-ce que c'est vraiment cette image-là qui doit s'imposer quand on regarde des particules dispersées sur l'ensemble du ciel de l'Europe et à quelques milliers de kilomètres ? Est-ce qu'on peut appliquer ce modèle ou est-ce que, sans l'appliquer, on ne l'a pas eu quelque part un peu trop en tête, comme lorsqu'on a eu le H1N1, on a appliqué le 118 ? Deuxième élément, c'est quoi les initiatives à prendre tout de suite ? Le problème, c'est qu'est-ce qu'on a en tête ? Et là, il y a une redéfinition immédiate des objectifs à regarder. C'est Apollo 13 où le directeur des opérations en vol dit « Il n'est plus question de les faire aller sur la Lune, le problème c'est de les ramener au sol, de les ramener chez nous, de les ramener sur Terre. » Et je me fiche de savoir pourquoi sont conçus les systèmes, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Et ici, peut-être que la mission, c'était de ramener les gens chez eux et non pas de rétablir le système aérien tel qu'il était. Alors, c'est extrêmement difficile parce que la sécurité aérienne a mis 30 ans à se construire. On ne va pas casser des règles comme ça n'importe comment. Mais il se trouve qu'il va falloir inventer la capacité de flexibilité dans des règles tout en gardant la même exigence en termes des règles. C'est de la quadrature du cercle, mais il va falloir être capable de le faire. Mmh. Et en termes, autre élément, il y a la vitesse. Tout ça, ça se déroule en... On n'a pas 4 jours pour réfléchir. Les enjeux sont tellement énormes aujourd'hui qu'il faut être capable de le faire à très très haute vitesse. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais à très haute vitesse. Donc toute la question, c'est celle que vous avez posée. Quelle préparation ? Si je me suis préparé à l'aveuglement de quelques points en Europe et la communication entre ces quelques points, c'est radicalement différent de l'aveuglement de toute l'Europe. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que dès qu'on propose ce genre de préparation, ce genre de scénario qui sort des cadres habituels et pour lesquels nous n'avons pas des réponses préprogrammées, mais sur lesquels on s'entraîne à être surpris, en général, la réponse est non, on n'a pas de temps à perdre. Je crois qu'aujourd'hui, avec les crises systémiques, il va falloir avoir le courage intellectuel, le courage psychologique, le courage décisionnel de se mettre face à ces grands événements possibles qui sortent des scénarios habituels parce que c'est pas un tous les 10 ans qu'on a. Maintenant, c'est un tous les 6 mois, voire tous les 3 mois. Donc il est vraiment urgent que nos cellules de crise, nos comités exécutifs, nos directions de ministères, nos ministres se mettent à réfléchir et à s'impliquer dans des exercices de ce niveau de qualité, de ce niveau de difficulté. Si on ne le fait pas, la prochaine, on aura le même problème de qualification, d'action, de vitesse, d'acteur, etc.
Francis Guinche, votre sentiment par rapport à ça ?
Je comprends bien cette analyse un peu abstraite, mais je pense que les gens qui ont effectivement décidé une politique de sécurité d'abord, c'est vrai, je comprends assez bien l'analogie H1N1 1918, mais là, la question qui s'est posée, j'imagine, c'était, on ne peut pas perdre un seul avion. Et l'enjeu, c'est même s'il y en a 30 000 qui volent tous les jours, comme vous le savez, dans notre ciel, et que nous gérons tant bien que mal au quotidien, on n'avait pas le droit d'en perdre un seul.
C'est toute la question, Patrick Lagadec, de notamment lancée aujourd'hui, hein, dès aujourd'hui, dans la presse française, et puis sans doute bien au-delà. C'est ce principe de précaution donc, qui est mis en débat. J'en citerai un seul titre, mais il est double. Dans l'Alsace, on dit « Tout accident aujourd'hui vaudrait aux responsables de l'aviation civile et aux politiques, bien sûr, d'être accusés de légèreté criminelle. Mais, le statu quo leur vaut déjà aussi la critique inverse, celle d'un excès dans l'application du principe de précaution. C'est où la bonne norme ?
Je crois qu'on fait porter au principe de précaution un principe d'incapacité à piloter nos systèmes aujourd'hui. Le problème, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être de ne pas attendre 4-5 jours pour mettre en vol des aéronefs pour voir et pour étudier. Peut-être qu'on peut le faire tout de suite pour qualifier la chose. On était peut-être dans l'idée que comme on ne peut pas faire tuer 500 personnes qui tomberaient comme des mouches, on ne fait rien. On attend. On attend que les modèles puissent nous rassurer, donc qu'on puisse dire qu'il n'y a plus une seule particule dans le ciel européen. Je crois que c'était important de lancer tout de suite. Et moi, je me suis dit, lorsque j'ai entendu KLM Air France qui lançait des avions pour aller voir, sans passagers, c'est extrêmement astucieux. Et il fallait probablement le faire, peut-être pas dans les deux premières heures, parce qu'il faut vraiment faire très attention, mais assez rapidement, quand on a vu la différence de qualité entre le nuage au-dessus du volcan et le nuage au-dessus de l'Europe, il y a peut-être au moins des zones où, et là en termes de vitesse, si vous n'avez pas besoin de fermer les aéroports de Nice, Marseille, etc., vous pouvez peut-être les utiliser pour faire du rapatriement humanitaire à très haute vitesse avant d'être bloqué. Et donc la rapidité pour la mise en test, pour savoir de quoi il s'agit, est absolument critique. Mmh. Et si on attend 4-5 jours, on dit on a perdu 4-5 jours, en gros ça va, on a fait ce qu'il fallait. Oui, on a fait en gros sur le papier. Mais moi j'aurais voulu être dans les cellules de crise pour voir la dynamique qui s'est mise en place pour faire autre chose que de la téléconférence où on compare les données. Oui, certes, il ne faut absolument pas faire n'importe quoi en disant le premier avion qui tombe, on verra bien. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on peut gagner en vitesse et avec des moyens, par exemple, de tests rapides sur à peu près de quoi il s'agit. Je pense à avoir entendu les uns et les autres, et tout de suite, en début d'émission, ça a été dit, il y a une période qui n'a pas été exploitée, et moi, je la relis à la non-préparation, et donc quelque part, un peu aussi, on verra ça en retour d'expérience, à une forme de sidération que l'on voit toujours dans ces cas-là, où on attend un peu parce qu'on ne sait plus que faire, parce qu'on ne l'a pas testé, on ne s'est pas mis dessus. Et je pense que si on avait fait de la préparation sur hors scénario normaux, on aurait beaucoup réduit cette période d'attentisme. Enfin, je dis ça sous toute réserve, il faudra voir si le retour des références le confirme, mais il y a tellement d'éléments qui nous font songer à toutes les crises hors cadre que nous avons vécues ces dernières années que je pense que ça commence à converger.
Olivier Lallemand, est-ce que nous sommes effectivement coincés dans la société du risque zéro ? Parce que tout à la fois, la question est évidente, Francis Guinche l'a rappelé, on ne peut en aucun cas prendre le risque, à défaut d'être taxé immédiatement criminel, de jouer ou de parier sur la survie de quelques-uns que l'on laisserait partir. On peut peut-être discuter sur les urgences de rapatriement qui auraient pu effectivement être ainsi organisées, mais est-ce que l'on peut, selon vous, en tant que consultant ou spécialiste en aéronautique, prendre effectivement de la mesure rapide des endroits ou des poches que l'on peut encore utiliser pendant, par exemple, un moment donné pour ne pas être occulté totalement et impuissant ?
Mais c'est sûr que, tout le monde est d'accord de dire que prendre le risque, c'était évidemment pas la bonne solution et personne ne voulait aller vers une solution comme ça. Mais on est quand même là face à un blocage qui a eu lieu jeudi soir. Et si mes informations sont bonnes, les premiers vol tests ont eu lieu dimanche. Alors, on peut déjà se poser la question, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? Avec les instruments qui existent aujourd'hui d'un point de vue météorologique, en collaboration avec Eurocontrol, pourquoi ne pas avoir pouvoir essayer de faire ces tests plus tôt. C'est là la question. On l'a fait, les tests se sont avérés négatifs. Donc effectivement, on montre qu'il y avait quand même certaines zones, notamment l'Allemagne, qui étaient tout à fait claires. Donc pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ?
Francis Guinche, avec plus d'autorité centralisée entre les mains d'Eurocontrol, ces tests auraient-ils eu lieu plus tôt ?
Je ne sais pas. C'est possible qu'au cas où on aurait vraiment une autorité très élargie, parce que là, dire s'il vous plaît, messieurs de la météo, aller lancer un ballon ou je ne sais qui, c'est donc on n'est plus dans le domaine de l'aéronautique ou de la navigation aérienne.
Bien
qui
sûr.
Est le domaine.
Hein.
On touche à un autre domaine. Je vous rappelle que on gère des crises tous les jours, nous à Eurocontrol, mais des mini-crises bien sûr. Hein. Mais un petit problème à l'arrivée dans un aéroport, une piste qui est fermée pendant quelques moments, une grève, un problème météo, éventuellement une alerte à la bombe. On a eu bien sûr le 11 septembre à gérer.
Bien sûr.
Donc on a ce genre d'expérience avec des tas de domaines que nous ne maîtrisons pas la source. Je parle du phénomène qui provoque l'événement. Hein. Bon, là, effectivement, c'est pas dans l'autorité de la navigation aérienne de dire vous allez mesurer les particules qui sont dans le ciel.
Oui. Et pourtant, Francis Guinche, à vous entendre, et parce que je me souviens d'être venu vous visiter il y a déjà des années, ainsi qu'un certain nombre de vos collègues nationaux, je sais effectivement, et je peux attester, combien vous êtes amené à gérer avec des nerfs d'acier et un calme et une placidité réelle ces mini-crises dont vous nous faites d'ailleurs l'économie de l'information pour que personne ne panique en atterrissant ou en décollant, mais pourtant vous les gérez, vous venez de le dire. Alors est-ce que ce n'est pas ailleurs, précisément là où les centres de décision se trouvent, notamment politiques, que l'on a manqué de sang-froid, de recul et de capacité de gestion de crise tout simplement ? Vous avez peut-être besoin d'avoir quelques stagiaires.
Je pense qu'effectivement, le sujet de votre émission, gestion de crise, c'est bien le problème. Hein. Mais la crise n'était pas uniquement navigation aérienne. On a la chance d'être un centre centralisé qui voit beaucoup de choses, qui a un big brother, et qui voit la circulation du trafic aérien d'assez bonne manière pour pouvoir faire ce qu'on appelle la gestion de l'effet réseau. Mais par contre, on subit des phénomènes comme celui d'apprécier le risque que présente ce type de nuage, le risque que présente même, c'est un problème qu'on retrouve assez fréquemment pendant l'hiver, ces problèmes d'anticipation potentielle de mauvaise météo à l'arrivée. Est-ce qu'on va commencer à empêcher les avions d'arriver alors qu'ils partent 5 ou 6 heures avant? Ou est-ce qu'on les laisse venir et puis on voit un petit peu et on va les dérouter? Bon, là, on a une solution parce qu'on peut dérouter. Par contre, là, dans cette situation-là, il était relativement difficile, en fonction de l'analyse qu'on faisait de la dangerosité du nuage, ce dont, je rappelle, nous ne sommes pas compétents. Là, c'est beaucoup plus difficile. On n'a pas vraiment une roue de secours.
Donc, Patrick Lagadec, il faut impérativement de la coordination, comme vous le disiez, de l'anticipation et de la coordination pour que l'on trouve à la fois entre ces spécialistes d'Eurocontrol et d'autres spécialistes qui doivent déterminer les paramètres manquants, il faut de la coordination et manifestement ça, c'est pas au point.
Ce que je pense, j'étais hier en discussion avec des gens de l'aéronautique, de la météo, des moteurs, des volcans, chacun a bien fait son travail et pourtant il y a un problème. C'est donc qu'il faut aujourd'hui inventer des modes de travail entre les uns et les autres. Et le point commun, c'est pour ça que c'est de la coordination, mais sur une culture qui doit changer. Le point commun, c'est que chacun doit travailler en dehors, est obligé de travailler en dehors de son épure habituelle. La personne de la météo a très rarement travaillé avec des gens qui travaillent sur les moteurs. Et pourtant, c'est l'interface de tout cela qui va permettre de donner un cône de décidabilité de quelque chose. Sinon, c'est comme une perte de moteur pour le système de pilotage. Il n'a plus rien. Il attend que ça vienne bien redémarrer parce que chacun a dit tout est au vert. Donc on a vraiment ça. Et dans ce cas-là, il ne faut pas dire que si on arrête tout, c'est la sécurité absolue. Moi, je connais des hélicoptères qui n'ont pas décollé et des hélicoptères de secours. Donc il y a des gens qui peuvent très bien avoir un problème. Alors là, c'est uniquement des passagers. Encore quand on arrête tout, on est par défaut en sécurité quand on est au sol. Mais si demain on a un problème Internet majeur ou un problème électrique majeur sur l'ensemble de l'Europe, si on perd du temps comme cela, au point de vue de sécurité, on va être par défaut en non-sécurité. Et donc c'est un problème fondamental. Est-ce qu'aujourd'hui on est formé, on est préparé à aller dans ces terres totalement inconnues où c'est le chaotique qui va dominer? Il va falloir être intelligent ensemble pour trouver de la sécurité commune ensemble sur un sujet qui n'est pas donné, sur lequel on ne sait même pas au départ quelles questions se poser.
Alors à propos de questions qui se posent, un député vert français, Yves Cochet, par ailleurs partisan de la décroissance, dit aujourd'hui à ce propos: nous vivons une bonne anticipation de ce qui se passera dans une quinzaine d'années, la fin du transport aérien face à la raréfaction du pétrole, ce sera la fin de l'énergie à bon marché, Air France, Lufthansa et British Airways seront disparus, dit-il, faute de passagers. Pour lui, les dirigeants sont aveugles à la réalité. Catastrophisme politique d'opportunité, Patrick Lagadec?
C'est clair que par-dessous, il y a un problème majeur qui est posé à toute l'aéronautique, à notre style de vie, parce qu'on a vu à quel point c'était dépendant. Mais on aurait la même chose sur Internet, la même chose, beaucoup plus encore sur l'Internet, encore beaucoup plus sur l'électricité. On a aujourd'hui, avec ces crises majeures, ces chocs systémiques, des questions qui nous sont posées sur nos styles de vie. Et en termes, comme on dit souvent, de résilience, quelle est notre capacité? Tout est en flux tendu aujourd'hui. Et notre efficacité se fait en mesure de la disparition de la résilience. Quelque part, si on ne prend pas en compte en termes d'anticipation de ces vulnérabilités et d'anticipation des crises que nous poserons ces vulnérabilités nouvelles, on va dans le mur. Et je ne suis pas sûr que ce soit à 15 ans. Si ça continue à cette vitesse-là de choc majeur, on n'a pas 15 ans. Donc il est vraiment urgent de réfléchir et sur nos modes de vie et sur les crises qu'il nous faudra bien passer, et assez rapidement, très rapidement.
Olivier Lallemand, question de la fin. On sent bien notre fragilité, on vient de l'évoquer, et notre immense dépendance à un secteur. C'est même un secteur qu'on n'a pas évoqué, la défense. On a vu des dépêches nous dire, rassurez-vous, les avions et la défense sont assurés, mais on voit aussi que certains vols de la défense ont été très prudents et très, très relatifs. Donc, on n'ose pas le dire, mais la défense est aussi évidemment concernée par tout ce qu'on vient de dire.
Alors, un avion qui soit de la défense et qui soit commercial, il fait face aux mêmes soucis techniques qu'un autre.
Sauf qu'ils ne volent pas aux mêmes altitudes.
Oui,
ou pas toujours.
Non, mais enfin bon, là, personne. Si on n'avait pas de détails quant aux nuages et à sa vulnérabilité, on pouvait aussi se poser la question sur l'altitude. Visiblement, personne n'était au courant. Et on se rend compte qu'aujourd'hui encore, personne ne peut répondre aux critères sur lesquels, effectivement, ces décisions ont été prises.
Merci, messieurs, en tout cas, aujourd'hui, de nous avoir livré et vos expériences, et vos vécus, et vos réflexions. Elles nourrissent la nôtre, et j'espère qu'elles nourrissent aussi celles et ceux qui doivent en tirer les conclusions. Patrick Lagadec, je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'École Polytechnique de Paris. Olivier Lallemand, spécialiste en aéronautique. Francis Guinche, responsable de Eurocontrol, ce centre de gestion des flux de trafic aérien. Merci d'avoir été face à l'info.
Retrouvez Face à l'info tous les jours de la semaine, de 18h30 à 19h.